qui défendent l'organisme contre les corps étrangers comme les microbes.
Comment comprendre cette augmentation du cancer chez les enfants et les adolescents?
L'étude de l'OMS attribue cette hausse à une meilleure détection, mais aussi aux facteurs environnementaux. Une partie de cette augmentation peut être due à une détection meilleure ou plus précoce de ces cancers, a fait savoir le Centre international de recherche contre le cancer, CICR, l'agence spécialisée de l'OMS. Selon toujours cette agence, l'augmentation de l'incidence des cancers pédiatriques pourrait aussi être influencée par des facteurs extérieurs tels que des infections ou certains polluants présents dans l'environnement. Les chiffres observés sont probablement encore sous-estimés, en particulier dans les pays à faible revenu, du fait de la sous-déclaration des cas de cancer et du manque d'équipement de diagnostic, souligne aussi le CIRC, qui espère que les données de ces études aideront à sensibiliser, à mieux comprendre et mieux combattre ces domaines négligés de la santé en début de la vie.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Entre 15 et 45% des femmes séropositives qui accouchent transmettent le virus du Sida à leurs enfants, selon l'OMS. Mais un suivi médical efficace permet de ramener ce taux à 5% ou même moins. En quoi consistent ces interventions? Quelles sont les pratiques à adopter par une femme malade pour éviter qu'elle contamine son enfant? Que faire pour un bébé dont les parents sont séropositifs? Nous avons posé toutes ces questions au docteur Jonathan Kaunda. Il est chef du département de la coopération et du partenariat au programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il est au micro de notre correspondante en RDC, Chouchou Kaoa.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de test et à quel moment une femme enceinte doit faire son test pour s'assurer de son statut sérologique?
Merci beaucoup. Ce que nous conseillons d'abord à toute femme enceinte, c'est d'abord au premier trimestre déjà de commencer sa consultation prénatale. Dès qu'il est au niveau de la consultation prénatale, il y a des conseils qu'on leur donne par les sages-femmes ou les accoucheuses. Parmi ces conseils, on leur parle aussi du VIH. Pendant la grossesse et du VIH en général, comment on doit prendre en charge une femme qui est séropositive, et tout. On les parle pendant la CPN. Alors, au cours de cette CPN-là, on les demande souvent, parce que la première CPN, souvent, elle part seule. On les demande pour la prochaine CPN de s'accompagner de leur mari. Parce que pour faire les tests chez une femme enceinte, il est important que le mari soit là et soit d'accord qu'on puisse tester sa femme et que lui aussi puisse être testé. Souvent, on trouve que les maris n'accompagnent pas leur femme dans ça. Mais néanmoins, avec la DCIP qui est le dépistage prévu par les prestataires ou prescrit par les prestataires, là, on peut dépister la femme enceinte à partir de sa première consultation. Alors, à ce moment-là, on fait un test. D'abord, on les sensibilise, ce qu'on appelle les pré-tests, pour dire, on va vous faire ces tests ici pour vous, pour protéger votre enfant, pour vous-même. Si vous êtes séropositif, on continuera toujours à vous prendre en charge. Si vous êtes séronégatif, on vous dira aussi comment est-ce que vous devez vous comporter jusqu'à la fin. Souvent, on fait les tests rapides avec les determines. Et puis après, dès que ces tests sont séropositifs, on les fait encore pour la deuxième fois. Si c'est encore très sensible et c'est positif, on peut considérer que cette femme enceinte est séropositive.
Docteur, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a des chances pour un couple qui est détecté séropositif de pouvoir avoir un enfant sain?
Actuellement, c'est possible. Avec la politique de l'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Parce qu'on prend en charge très tôt à la femme qui est séropositive pour protéger l'enfant avec les antirétroviraux qu'on a programmés pour les femmes enceintes. Et à ce moment-là, on suit cette femme-là jusqu'à l'accouchement et on fait des examens de l'enfant pour savoir si cet enfant-là a été protégé avec les traitements qu'on a donné à sa mère. Alors, si l'enfant est né, on trouve le PCR, donc souvent c'est cet examen qu'on fait chez les enfants. Si c'est bon, C'est-à-dire que l'enfant peut naître séronégatif et on peut le suivre encore pendant plus de 18 mois. Et que c'est après 18 mois, si l'enfant est toujours séronégatif, c'est-à-dire que cet enfant n'a pas attrapé le virus de sida, et peut vivre normalement et suivre sa croissance. Mais des fois, dans la plupart des temps, les couples séropositifs, s'ils n'ont pas suivi les programmes de l'ETME, c'est-à-dire l'élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant pendant les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, bon, souvent, il y a plus de chances qu'il puisse avoir toujours un enfant séropositif.
Et il y a combien de pourcentage de chances que ce couple puisse avoir un enfant sain?
Un enfant sain, ça ne peut pas donner vraiment un chiffre comme tel. Mais je crois que dans 30-40%, on peut avoir un enfant, donc un couple peut avoir un enfant séronégatif dans 30-40%. Parce que vraiment, c'est un programme qui sauve beaucoup les femmes enceintes actuellement, le programme, la politique nationale, dans le programme élimination de la transmission du virus de la mère à l'enfant. Si vraiment on suit vraiment cette stratégie-là, je crois que les femmes peuvent accoucher des enfants, les couples peuvent avoir des enfants sans problème.
Alors docteur, pour une femme qui est détectée séropositive après le début de sa grossesse, quelles sont les précautions qu'elle devra prendre?
Les précautions qu'elle doit prendre, normalement, il faut qu'elle puisse continuer à suivre ses consultations prénatales. Et parce qu'à ce moment-là, pour les mettre sous le traitement antirétroviraux, il faut qu'il consulte les médecins, donc c'est lui le prescripteur des antirétroviraux, pour qu'on voit si cette femme-là doit avoir les médicaments. Souvent, on donne la prophylaxie, donc la prophylaxie pour éviter vraiment qu'il y ait l'éclosion de la maladie avant la grossesse. Et cette prophylaxie-là peut l'aider à arriver jusqu'à avoir un enfant. Et à ce moment-là, dès qu'elle a accouché, on peut la mettre sous antirétroviraux classiques comme tous les autres malades qui souffrent de VIH-Sida. À ce moment-là, on peut la suivre. Mais pendant la grossesse, vraiment, c'est à part la prophylaxie, les traitements qu'on lui donne là, c'est surtout pour protéger l'enfant. Mais traitement curatif avec les antirétroviraux, là en tout cas, on essaie un peu de voir comment est-ce qu'on peut les mettre après son accouchement. C'est comme ça que nous faisons, que nous prenons en charge les femmes séropositives enceintes.
Alors docteur, tout justement pendant la grossesse, quelles sont les pratiques à risque qu'elle a et les facteurs qui peuvent favoriser la contamination de la mère à l'enfant?
Une femme séropositive pendant la grossesse, il faut qu'il évite toute blessure d'abord, parce que c'est une femme qui est devenue très fragile à ce moment-là. Et il ne faut pas qu'il puisse être en contact avec le sang, avec en contact avec une autre personne. Et puis de deux, essayer aussi s'il y a à faire des rapports sexuels avec son mari pendant surtout les premiers trimestres, essayer de se protéger avec les préservatifs, parce que il faut éviter qu'il y ait encore d'autres sérotypes qui peuvent venir encore chez cette femme-là pendant ce temps-là. Et puis d'autres précautions qu'elle doit prendre pendant la grossesse, ce sont des précautions hygiéniques et normales pour une femme enceinte, comment elle doit se comporter, elle doit se laver, comment. Donc c'est normal comme toute autre femme, quoi. Elle doit être très hygiénique pour ne pas de ne pas être infectée, ne pas attraper la malaria, parce que d'être piquée par des moustiques et tout ça, souvent quand la malaria s'éclose avec son état là, ce sont des maladies qui viennent s'ajouter, qui ne sont pas bonnes. Éviter aussi d'avoir d'autres microbes qui peuvent entrer chez elle pour provoquer des maladies opportunistes. Ça va encore vraiment l'enfoncer davantage. Ce sont des précautions qu'il faut prendre. Et puis, pour éviter la transmission donc chez l'enfant pendant la grossesse, à part la prophylaxie et les médicaments qu'on lui donne là, c'est un peu difficile à dire comment est-ce que l'enfant ne peut pas être contaminé. Mais je crois que naturellement, si on a pris en charge cet enfant, cette femme-là à temps, avec les traitements, donc la prophylaxie antirétrovirale et tout ça, elle peut éviter la transmission de beaucoup de virions, de virus de sida vers l'enfant. À ce moment-là, l'enfant peut naître séronégatif. Donc il faut vraiment seulement qu'elle suive le conseil médical et qu'il parte chez les praticiens aguerris, ceux qui s'occupent des malades VIH positifs, pour qu'ils puissent comprendre comment il faut qu'elle puisse mener sa vie pendant ces moments de grossesse alors qu'elle est séropositive.
Alors docteur, au cas où il arrivait que malgré toutes les précautions que la femme ait prises pendant sa grossesse, l'enfant naît quand même séropositif, comment vous le prenez en charge cet enfant pour éviter le développement de la maladie dans son organisme?
Bon, cet enfant-là, comme je l'ai dit, dès qu'il est né, il est séropositif. On le suit pendant 18 mois. Après, on fait des examens pour savoir si effectivement il est encore séropositif. Dès que l'enfant est séropositif, à ce moment-là, on le soumet au traitement antirétroviral pédiatrique. Parce qu'il y a des antirétroviraux pédiatriques, c'est-à-dire des enfants, où un médecin prescripteur va le faire pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut garder cet enfant en vie et grandir aussi. Parce que le sida n'est pas vraiment une fatalité actuellement, comme vous le savez. Ce sont surtout les maladies opportunistes qui enfoncent les sidéens dans ces cas-là. Alors un enfant qui naît comme ça et qu'on prend en charge, qu'on prescrit les doses pédiatriques des antirétroviraux, je crois qu'il peut survivre et grandir jusqu'à un certain âge. Hein. Si vraiment on suit ça très bien, il peut même grandir avec son VIH, mais pour négativer parce que le problème c'est la charge virale, le problème c'est les CD4 qui se trouvent dans le corps chez l'enfant. Il faut voir aussi les PCR, donc pour voir si est-ce que ça a diminué ou bien ça augmente et tout ça. Parce que si c'est la charge virale devient indétectable chez cet enfant-là, c'est déjà une bonne chose, parce qu'à ce moment-là, il devient moins contaminant aussi et il peut bien vivre quand il mange très bien et tout ça.
Et donc, il peut bien vivre jusqu'à l'au-delà. Donc, il n'aura pas des traitements particuliers à pouvoir suivre d'année en année.
Comme le traitement du VIH, c'est un traitement, comme on dit, à vie. Je crois qu'il ne va pas laisser le traitement. Même s'il continue à vivre normalement et qu'il grandit, qu'on sait, mais il doit prendre son médicament jusqu'à ce qu'on pourra dire que vraiment, même s'il y a diminution ou l'indétectabilité de la charge virale et que le CD4 revienne à la normale, les lymphocytes là sont à la normale, on peut l'autoriser de se marier aussi. Quand il a grandi, qu'il est encore arrivé à l'âge, il peut mener une vie normale. Mais pour aller, par exemple, à une vie sexuelle active, parce que ça, quand il devient jeune, il faut faire très attention. Parce que s'il part sans préservatif, il peut encore aller attraper d'autres sérotypes qui peuvent l'enfoncer, l'amener à une sida maladie carabineuse et aller vers la mort.
Alors docteur, peut-être pour terminer, une mère séropositive doit-elle allaiter son enfant? Sinon, quelles sont les alternatives recommandées, vous, pour nourrir son enfant?
Bon, normalement, l'OMS demande à toute femme qui a accouché d'allaiter son enfant normalement jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors, mais maintenant, pour cette mère séropositive, parce que comme on dit qu'il y a une quantité de virus qui peut se trouver dans le lait maternel, il peut transmettre ce virus-là à l'enfant lors de l'allaitement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut refuser de donner cet enfant le lait maternel pour lui donner les autres substituts de lait, ou il faut donner l'enfant, ça dépend maintenant, il faut donner l'enfant de ce lait-là pour que dans le lait de la mère. Moi, je crois que scientifiquement parlant, on n'a pas défendu à la maman séropositive de ne pas donner de lait à son enfant. Elle doit allaiter son enfant tout en prenant d'autres précautions, comme on l'a toujours dit. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, une mère séropositive qui accouche un enfant qui est séronégatif. Parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées pendant la grossesse et lors de l'accouchement. Et maintenant que l'enfant qui doit grandir doit être allaité. Donc il faut normalement qu'on puisse l'aider. Il ne faut pas qu'on puisse donner d'autres aliments. Il faut d'abord l'allaitement pendant, comme l'INSEF l'a dit, durant 6 mois. Je crois que ce n'est pas. Mais c'est après 6 mois qu'on peut alors maintenant après voir si cet enfant-là a développé des virus ou des anticorps anti-VIH encore pour qu'on puisse voir. Bon, à ce moment-là, ça devient anormal et il faut les prendre en charge. Mais sinon, en tout cas, les 6 premiers mois, là, comme l'OMS l'a dit, il faut donner des traitements de lait maternel. C'était beaucoup de discussions dans les temps, mais je crois que c'est ça actuellement l'attitude qu'il faut prendre pour les mères et robots.
Nous remercions donc le docteur Jonathan Kaunda. Il était au micro de Chouchou Kawa, notre correspondante à Kinshasa.
Quelqu'un l'a vécu ? Voici son témoignage.
Comme vient de nous le confirmer notre invité, le suivi des femmes enceintes et séropositives permet de réduire considérablement les risques de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cependant, de nombreux obstacles se dressent encore sur le chemin des femmes africaines en général et congolaises en particulier. Il s'agit des problèmes de financement et des programmes de prise en charge des femmes vulnérables. C'est ce que nous a expliqué Ange Mavoula. Il est chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Il a été interviewé par notre correspondante en RDC, Chouchou Kawa.
D'accord, Ange, est-ce que vous pouvez nous dire, au sein de votre association, vous avez des femmes enceintes parmi les personnes que vous suivez?
Oui, il faut avouer que d'abord 70% de nos membres sont des femmes. Donc, bien évidemment, il y a des femmes enceintes parmi elles.
Et comment ça se fait le suivi de ces femmes?
Oui, les femmes enceintes VIH positives sont sensibilisées de façon à utiliser les services PTME. Et aussi, nous avons un noyau d'organisation de femmes qui est en train d'être mis en place pour pouvoir encadrer les femmes. Et vous savez qu'elles ont non seulement les problèmes de grossesse, mais aussi d'autres problèmes particuliers, étant une cible qui est plus vulnérable.
Et les aides particulières que vous accordez à ces femmes, c'est de quel type?
Faut avouer que oui, aucun partenaire ne donne une assistance sociale, que ce soit aux femmes ou aux vulnérables. Vous vous souviendrez, il y a quelques années, le Fonds mondial, qui est le grand contributeur, avait suspendu les appuis aux activités génératrices des revenus, la scolarité des OEV comme étant une activité à risque. Donc, le problème est réel, mais les partenaires n'acceptent pas d'appuyer les femmes dans ce sens-là, disons les vulnérables dans ce sens-là, sinon tout le monde apparaîtra comme vulnérable.
Et quel type de difficultés vous rencontrez avec ces femmes?
Nous, comme regroupement pays des organisations de personnes vivant avec les VIH, de temps en temps, les femmes qui en majorité sont pauvres viennent vers nous pour justement demander ces aides-là. Et voilà, en tout cas, si on les appuie, c'est avec nos petites contributions de nos poches, cette solidarité individuelle, mais il n'y a vraiment aucun appui. Ce qu'on fait aussi avec eux, c'est pour ceux qui ont des problèmes juridiques, judiciaires, essentiellement sur les héritages, parce que c'est ça aussi le problème. Il y a des femmes, des veuves, pour qui les familles de mari ont soit récupéré les histoires, tous les biens et n'ont rien, ils ont des difficultés d'accéder aux services juridiques pour justement être en possession de leurs droits d'héritage. Et là, nous travaillons avec le ministère de la Justice et pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là.
Vous parlez des partenaires extérieurs qui avaient rompu ces aides et le gouvernement congolais dans tout ça.
Comme appui matériel, il faut avouer que le gouvernement ne donne rien. Et bien sûr, le gouvernement contribue d'une autre façon. Je dis que nous travaillons avec le ministère de la Justice, qui est bien sûr le gouvernement, qui les aide dans ce sens-là. Mais matériellement, il faut avouer qu'il n'y a rien. Donc, c'est difficile, mais c'est ça la réalité.
Et même pas un programme mis en place par le gouvernement pour pouvoir tout justement venir en aide à ces femmes vulnérables?
Rien, absolument rien. Rien, absolument rien.
Et ça depuis des années ou...
Oui, depuis des années. Vous savez, tous les partenaires, en commençant par le Fonds mondial qui est le grand contributeur, ils ont depuis le cycle de financement passé exigé à ce que les pays puissent contribuer à hauteur de 5 à 30% selon que l'on est pays en difficulté comme la RDC à faible revenu. Pour nous, par exemple, parce qu'on parle de la RDC, nous est demandé de pouvoir contribuer à hauteur de 5% du montant que donnent bien sûr les partenaires extérieurs. Et il y a seulement les cycles passés que le pays a essayé de contribuer, mais encore, faut avouer que on n'a pas tout contribuer. Il reste encore de l'argent pour le cycle passé et qui peut même nous poursuivre parce qu'en fait, maintenant, on venait d'écrire la note conceptuelle 2018-2021. Si jamais le pays n'arrivait à apurer sa dette du cycle passé, on va imputer ça sur le financement prochain. Donc, c'est un risque énorme donc sur lequel il nous faudra vraiment travailler de sorte que le gouvernement prenne ses responsabilités et puisse contribuer d'abord à purer sa dette passée et contribuer pour le prochain cycle, le cycle prochain.
Nous remercions Ange Mavula qui était au micro de Chouchou Kahoua.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
La question de la semaine nous vient d'un auditeur de Kinshasa. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Nguenkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France.
Bonjour docteur.
Bonjour, moi c'est Edmond Izouba. Je voulais poser une question au docteur. Juste savoir, quand par exemple vous avez des démangeaisons dans votre corps, vous avez pris des médicaments, mais de manière périodique, ça réapparaît. Cela est dû à quoi? Est-ce que c'est le mauvais traitement? Est-ce que c'est le mauvais cumul de médicaments?
Ce que je peux expliquer à Edmond, c'est que les démangeaisons ont plusieurs causes. La première cause qu'il devrait pouvoir éliminer est de savoir si ces démangeaisons ne sont pas tout simplement en rapport avec le médicament qu'il prend. Dans ce cas, on serait dans un contexte de démangeaison, à savoir de pruite, pour parler avec son nom scientifique, en rapport avec une allergie médicamenteuse. Mais il n'y a pas que des allergies médicamenteuses. On peut également présenter un pruite, à savoir des démangeaisons sur tout le corps, si on a par exemple une allergie comme un eczéma ou tout simplement un urticaire. C'est également des pathologies qui donnent des démangeaisons. Mais il n'y a pas que la cause allergique. Il y a aussi la cause parasitaire. Il y a un certain nombre de parasites, comme la gale, par exemple, qui donnent des démangeaisons et bien d'autres. Et pas seulement les maladies parasitaires. Il y a d'autres maladies, comme une maladie hépatique, qui peut aussi provoquer des démangeaisons. C'est pour ça que je vais vraiment inviter Edmond à pouvoir consulter un médecin le plus rapidement possible pour qu'il puisse vraiment établir le rapport entre ses démangeaisons et le traitement qu'il prend actuellement. Si le traitement lui a été donné pour soigner ses démangeaisons-là et qu'il a montré son inefficacité, il faudrait essayer de chercher une autre cause. Par exemple, une cause parasitaire, une cause hépatique. Voilà l'explication que je peux donner à Edmond.
Merci, docteur.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Nous avons reçu comme invité le docteur Jonathan Kaunda, chef du département de la coopération et du partenariat au programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Il nous a expliqué comment éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous avons écouté le témoignage de M. Ange Mavula, chargé du suivi et de l'évaluation de l'Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH-SIDA. Il nous a présenté les difficultés rencontrées par les femmes enceintes et séropositives en RDC. Notre consultant, le Dr Amangin Kap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité santé et à Chouchou Kawa, notre correspondante à Kinshasa, pour les entretiens. Georges Léonard Sagno assurait la réalisation et Aiden Utko était à la console. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car
votre santé, c'est votre avenir.
Au revoir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.